à l'Église d'Occident sous les Mérovingiens. Nous avions déjà commencé ce chapitre et par conséquent nous poursuivons. Simplement pour rappeler ce que nous avons dit d'abord, c'est que l'époque des Mérovingiens est une époque de décadence sur le plan spirituel. C'est une époque de décadence sur le plan des mœurs parce que l'évangélisation des peuplades qui sont venues s'installer en Occident est tout ce qu'il y a de plus superficiel. Souvent, les chefs de tribus, les roitelets, se convertissent pour des raisons plus politiques que spirituelles. Et selon le principe qui fera fureur au Moyen-Âge, cuius religio, c'est-à-dire la religion du prince doit être la religion de ses sujets. Traduction assez libre, c'est à peu près ce que ça veut dire. Les sujets adoptent le christianisme sans coup férir, mais sans conviction particulièrement profonde, comme on peut s'en douter. Si bien qu'au niveau des changements de vie que ce genre d'évangélisation superficielle provoque, c'est assez succinct. Et les populations d'origine germanique qui habitent dans tout ce qui est les restes de l'ancien empire romain sont des populations qui ont le culte de la force brutale, marqué par une grande cruauté. On ne se prive pas justement pour manifester cette cruauté vis-à-vis des adversaires. Et sur le plan des mœurs, il en va de même. Les liens du mariage sont tout ce qu'il y a de plus formel. Et l'immoralité sous toutes ses formes fleurit jusque dans la cour des rois et plus encore jusque chez les prêtres. C'est donc une période où le christianisme est plutôt malmené. C'est aussi l'époque où l'évangélisation de l'Europe, qui avait été commencée au siècle précédent par les moines celtes, se poursuit, mais se poursuit avec des méthodes beaucoup moins spirituelles et beaucoup moins évangéliques que celles qui avaient été employées par les celtes. Et il n'est pas rare de voir à cette époque-là l'évangélisation se faire à la pointe de l'épée, ainsi que nous allons avoir l'occasion de nous en rendre compte. Par contre, contrastant avec cette période de décadence, il y a un affermissement de la puissance papale. La papauté, qui avait commencé à affirmer son pouvoir avec Grégoire le Grand, va poursuivre sur cette lancée. Et parallèlement à l'affermissement de la papauté, on va assister à un affermissement de la puissance ecclésiastique qui culminera au siècle suivant avec ce que l'on appelle la Renaissance carolingienne, lorsque Charlemagne arrivera au pouvoir et qui aura son couronnement, si j'ose dire, avec l'union de l'Église et de l'État, lorsque le jour de Noël de l'an 800, Charlemagne sera sacré empereur de l'Empire romain d'Occident reconstitué par le pape. Ce sera la consécration de l'union entre l'Église et l'Empire, et la renaissance de l'Empire romain d'Occident, qui est resté le rêve de l'Église, en quelque sorte, va se trouver ainsi réalisée, notamment et essentiellement par l'Église. C'est l'Église qui va être la cheville ouvrière de cette restauration. Et de cette union va sortir ce que l'on appelle le Saint-Empire romain germanique, qui durera jusqu'à ce que Napoléon y mette fin, à peu près un millénaire plus tard. Pour l'heure, on n'en est pas encore là. Mais déjà, les premiers jalons de cette union dont devait naître le Saint-Empire romain étaient déjà posés. Et l'Église va faire en sorte que le christianisme soit un élément et unificateur de toute cette mosaïque de tribus, de peuplades, de royaumes que constitue l'Europe à cette époque-là. Et c'est ainsi que l'Église impose, ce qui est d'ailleurs à peu près assez curieux, l'usage du latin comme langue liturgique partout. Bien, en Italie, ça peut encore se concevoir, car le latin est encore compris par les élites. Mais il est certain que chez les nouvelles peuplades, nouvellement converties comme les Germains, justement, eh bien, ça se justifie beaucoup moins. Néanmoins, il y a là un effet tout à fait positif qui découle de cet usage du latin, c'est que moins les Germains comprennent ce qui se dit, plus ils sont impressionnés. Ne comprenant pas un traître mot à ce qui se dit dans la messe, ils se disent qu'il doit se passer des choses formidables. Et comme les Germains sont des gens très impressionnables, eh bien, le but est ainsi atteint. Deuxième usage qui se généralise à cette période-là dans l'Église d'Occident, c'est l'année liturgique. L'année liturgique qui acquiert force de loi, en sorte que cette mosaïque de peuplades qu'est l'Europe va vivre au même rythme du calendrier. Mais c'est aussi l'époque où naît dans l'Église la prise de conscience de sa force et en même temps, ce qu'en est le corollaire, un appétit de domination insatiable. Et ce sont les premiers jalons de cette puissance temporelle de l'Église qui va ainsi dominer le Moyen-Âge. Néanmoins, tout n'est pas entièrement négatif dans l'action entreprise par l'Église à cette période. Et c'est ainsi que dans cette période de chaos, l'Église va se pencher sur le sort des plus défavorisés. Et c'est ainsi que se crée un peu partout, des hôpitaux, des couvents, qui sont souvent des lieux, justement, d'accueil pour les plus défavorisés, pour les plus démunis, et ce sont souvent, justement, les religieux et les religieuses qui sont regroupés dans ces couvents, qui ont aussi la charge des hôpitaux. L'Église fait en sorte, aussi, d'évangéliser les campagnes. Jusqu'alors, c'était essentiellement les villes qui étaient évangélisées. Or, à cette époque, l'essentiel des populations n'était pas urbanisé, c'était l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, et l'essentiel des populations vivait au contraire dans les campagnes. Et les campagnes avaient jusqu'alors été négligées dans l'évangélisation de l'Europe, et en même temps qu'une évangélisation, je dirais, lointaine, il va y avoir un souci d'évangélisation en profondeur, ne serait-ce que pour essayer de mettre un petit peu un frein à ces mœurs dissolues qui règnent parmi les populations de l'Europe. Et c'est ainsi que la politique de l'Église va être d'implanter, justement, des paroisses, des églises, dans chaque village. Et l'Europe va prendre à partir de ce moment-là l'aspect qu'elle a gardé jusqu'à aujourd'hui, celle de petits villages perdus dans la campagne, groupés autour de leur église. C'est le résultat d'une politique entreprise à cette période-là par les représentants de l'Église. Par conséquent, l'époque mérovingienne est une époque d'évangélisation et de rassemblement. L'instrument privilégié de la puissance de l'Église, c'est justement l'Église franque et le peuple franc, qui, depuis Clovis, est considéré comme la fille aînée de l'Église, mais qui était devenue chrétienne, souvent par pure cupidité. Et les rois mérovingiens sont à fond dans la droitine de leur fondateur, de Clovis. Ils n'ont souvent d'autre but, n'est-ce pas, que de s'enrichir, soif de luxe également. Et pour cela, ils n'hésitent pas à interférer constamment dans les affaires de l'Église, notamment lorsque celle-ci essaie de contrecarrer leur plan. C'est ainsi que les rois mérovingiens vont prendre l'habitude de nommer froidement les évêques, court-circuitant ainsi les autorités ecclésiastiques compétentes en la matière, et cette situation va perdurer pendant nombre d'années. Charlemagne lui-même et ses descendants connaîtront cette tentation à maintes reprises, et les pouvoirs respectifs de l'Église et de l'État vont être extrêmement flou pendant toute cette période, et la situation ne se clarifiera que beaucoup plus tard. Mais pour l'heure, à la fois le domaine de l'Église et à la fois le domaine de l'État sont très mal définis. L'Église se permet d'intervenir dans des questions qui, manifestement, sont du ressort de l'État, et notamment, quelques années plus tard, au début du siècle suivant, les États d'Église vont considérablement s'agrandir et le pape deviendra un des souverains temporels les plus puissants de l'Europe, n'hésitant pas parfois à charger à la tête de ses troupes, évidemment pour un homme d'Église assez contestable. Et réciproquement, l'État n'hésitera pas à intervenir dans les affaires de l'Église. Charlemagne lui-même convoquera des conciles, nommera des évêques, etc., etc. Maintenant, à côté de cette évangélisation en profondeur, il y a une évangélisation lointaine qui se poursuit. Cette évangélisation n'a pas que des buts altruistes et désintéressés. N'oublions pas que nous sommes à l'époque de la montée de l'islam. Et l'islam est une menace, puisque finalement, il ne sera bloqué qu'à Poitiers, en 732, un siècle plus tard. Mais en même temps, il y a à l'est et au nord-est des populations païennes qui exercent aussi une pression sur les États chrétiens. Si bien que les États chrétiens sont pris dans une sorte de tenaille constituée d'une part par les musulmans au sud et par les peuples païens, danois, saxons, etc., frisons, qui exercent une poussée en partant du nord et de l'est. Par conséquent, il va y avoir une double riposte, d'une part militaire de la part des pouvoirs, et d'autre part, spirituel. Il y a une espèce d'alliance, comme on a eu l'occasion de le dire, du sabre et du goupillon, pour essayer de mettre fin à ces menaces. Et l'on pense que si des missionnaires peuvent convertir ces populations turbulentes au christianisme, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de les pacifier ensuite et de les intégrer, justement, dans cet ensemble qui commence à se constituer sous la houlette de Rome, parce que finalement l'Église est déjà la puissance qui émerge comme la seule réalité capable d'unifier justement les États dits chrétiens. Et c'est ainsi que pendant les deux ou trois siècles qui suivent, on va voir successivement l'évangélisation des Frisons, c'est-à-dire des habitants de l'actuelle Hollande, des Thuringes, des Bavarois, des Alamans et sous Charlemagne, des Saxons. La première entreprise de ce genre, qui allie à la fois le sabre et le goupillon, est entreprise par le bon roi Dagobert en 638, qui était loin d'être le personnage loufoque de la chanson, n'est-ce pas, mais qui était un personnage particulièrement énergique, si vous tentez qu'on puisse l'être, à l'époque des Mérovingiens. En tout cas, sous Dagobert, La décadence, sur tous les plans qui marquent l'époque mérovingienne, non, parce qu'il y a une décadence non seulement spirituelle, mais également politique et économique, je dirais, va être quelque peu enrayée. Et pendant un siècle, à partir de Dagobert, il va y avoir une espèce de renaissance économique dans les États mérovingiens. Et cette renaissance économique va s'accompagner de mesures énergiques prises, justement, pour empêcher les pressions des barbares qui sont à l'extérieur, et Dagobert va favoriser les entreprises des missionnaires chrétiens qui tentent d'aller évangéliser ces populations-là. Or, Dagobert et les missionnaires qui sont avec lui ont compris que les Germains, comme nous l'avons vu ensemble la dernière fois, sont des gens qui ont avant toute chose le culte de la force. Par conséquent, il ne sert à rien d'arriver en leur prêchant un évangile d'amour, ou un évangile de justice, ou un évangile de sainteté. Ce sont des notions auxquelles ils sont totalement fermés. Par contre, il faut arriver vers eux en leur montrant que le christianisme est supérieur, infiniment supérieur, non seulement à leur religion, mais également à leur culture et à leur civilisation. Il faut donc faire étalage de force, de supériorité et de force. Il faut que l'Église arrive en position de force. Impressionner les populations en question, au besoin, par des démonstrations de force au sens propre du terme, avec l'épée. Et très vite, cette politique se révèle tout à fait payante. Et les Thuringes, les Bavarois, les Alamans se convertissent en masse, ainsi que leurs princes. Très vite, les missionnaires vont passer à un stade qu'ils vont au début avoir quelques scrupules à franchir, celui de l'emploi de l'épée. Mais très vite, ils se rendent compte que l'usage de l'épée est un argument particulièrement persuasif pour entraîner les conversions de ces populations-là, et les scrupules disparaissent et ils vont en faire un usage, disons, modéré serait peut-être un peu fort, enfin, un bon usage. Et très vite, on se rend compte que c'est pratiquement indispensable parce que souvent, les missionnaires arrivent à la tête d'une troupe nombreuse qui commence par tout piller, mettre feu à sang, détruire, incendier, etc. Et après ça, on évangélise ces gens-là en disant, vous voyez, de toute façon, notre Dieu, il est plus puissant que vos dieux qui n'ont pas su nous défendre. Bon. Seulement, le problème, c'est que parfois, le sort des armes n'est pas toujours favorable aux missionnaires. Et à ce moment-là, les populations germaniques ont plutôt tendance à penser que c'est leur Dieu qui est un petit peu plus puissant que le Dieu des chrétiens. Alors évidemment, c'est assez fâcheux pour l'évangélisation qui en découle, et c'est ainsi que les tribus voisines ont tendance, qui ont été christianisées, ont tendance à revenir elles aussi au paganisme quand les choses ont tendance à mal tourner. Alors on est obligé évidemment de faire la surenchère, et c'est ainsi que sous Dagobert, eh bien, on va entreprendre des véritables massacres pour mettre un petit peu ces gens-là à la raison. Et il y a en particulier un massacre d'Alamans qui est resté célèbre sous Dagobert, qui a eu lieu dans la ville de Darmstadt en Allemagne. En tout cas, ce massacre est payant, si j'ose dire, puisque peu de temps après, un certain nombre de Frisons, qui sont des populations particulièrement turbulentes, se convertissent. On emploiera la même méthode d'évangélisation pour évangéliser les Roumains qui habitent aux environs de la mer Noire, et l'évangélisation des Roumains par cette méthode énergique date de cette époque-là. De leur côté, les Saxons commencent aussi à être évangélisés par des missionnaires qui sont venus d'Espagne, qui emploient aussi les mêmes moyens. Et très vite, on se rend compte que la religion nouvelle ne peut subsister dans ces conditions-là que si elle est appuyée par un système politique extrêmement solide. Et que si on n'assoit pas justement l'évangélisation sur des assises politiques très fortes, la plupart des nouveaux convertis, on s'en douterait facilement, reviennent en arrière au bout de peu de temps. À côté de ces méthodes que d'aucuns qualifieraient de viriles, il y a un certain nombre de missionnaires tout de même qui trouvent que ça va un peu fort, qu'il faudrait quand même revenir à des méthodes un petit peu plus bibliques. Et c'est le cas en particulier de missionnaires anglais. Missionnaires anglais qui sont des descendants, en quelque sorte, de, par exemple, de gens qui se sont convertis à l'époque d'Augustin de Canterbury, et aussi, d'une certaine manière, des Celtes, et qui, bien que maintenant totalement romanisés, c'est-à-dire partisans du pape, ce que n'étaient pas, vous vous souvenez, les Celtes, ont gardé tout de même une certaine assise évangélique. Et les Anglais sont très mal à l'aise par rapport aux méthodes d'évangélisation utilisées par Dagobert. Et parallèlement à cette évangélisation par le fer, va naître à cette période une autre entreprise missionnaire, mais qui cette fois-ci sera beaucoup plus évangélique, c'est-à-dire qui sera basée uniquement sur la puissance de persuasion de la parole et sur rien d'autre. Et c'est Wilfrid, qui était l'évêque d'York à cette époque-là, qui est le promoteur de cette évangélisation, et un peu partout en Angleterre, il recrute des missionnaires pour les envoyer sur le continent. C'est ainsi que l'objectif premier de Wilfrid, c'est les Frisons. D'abord parce que le pays des Frisons n'est pas très loin d'Angleterre, et puis deuxièmement parce que les Frisons sont des populations particulièrement turbulentes, et on pense qu'il faudrait vraiment les mettre à la raison. Les tentatives d'évangélisation musclée de Dagobert n'ont pas tellement réussi, alors peut-être que les méthodes plus évangéliques auront davantage de succès. Et c'est alors que se lève un homme qui va devenir l'apôtre des Frisons, qui se nomme Willibrord. Willibrord est un homme qui est un moine et qui va se sentir ce fardeau pour les Frisons. Il va participer sous l'impulsion de l'évêque d'York à une sorte d'école biblique, une école de missionnaires que ce dernier a fondée, d'où sortiront justement tous les grands apôtres des populations germaniques de cette période-là jusqu'au IXe siècle, et qui a pour but essentiellement d'évangéliser. Alors il y a plusieurs buts. Le but, c'est d'abord d'évangéliser les païens, mais également de promouvoir une réforme d'un christianisme que l'on juge en Angleterre un christianisme par trop superficiel. Donc en même temps, d'aboutir à une réforme profonde spirituelle et enfin une réforme des mœurs qui sont aussi, comme on l'a dit, particulièrement corrompues à cette période-là. Après quelques années passées dans ce monastère-école, Willibrord s'embarque pour le continent avec 11 de ses compagnons. Et contrairement à ce qu'avait été l'évangélisation par le fer, l'évangélisation de Willibrord auprès des Frisons va être un plein succès. Bon, ça va pas se faire du jour au lendemain. Il va y avoir pas mal de fils à retordre, mais finalement, les Frisons vont commencer, les uns après les autres, à se convertir au christianisme. Bientôt, Willibrord est submergé par la tâche. Il demande qu'on lui envoie des renforts au point de vue missionnaire. Et un peu partout, n'est-ce pas, le pays est sillonné par les missionnaires venus d'Angleterre qui ainsi annoncent la bonne nouvelle. Quelques années plus tard, en 698, Willibrord arrive dans ce qui est actuellement le Grand-Duché du Luxembourg. Et là, il va y établir un évêché. Puis, autour de cet évêché, comprenant que les meilleurs missionnaires sont ceux qui surgissent du sein du peuple à évangéliser lui-même, il va à son tour créer une école de missionnaires, mais cette fois-ci pour des Frisons, qui se sont convertis et qui vont aller ainsi évangéliser leur peuple. La vision de Willy Brod est basée sur deux réalités. Pour que justement les nouveaux convertis ne reviennent pas en arrière, il crée un peu partout où il le peut, des monastères. Des monastères où vont se créer des communautés autour desquelles la foi va se cristalliser. Et là, on retrouve à nouveau l'importance des monastères dans l'évangélisation de l'Europe. Le premier exemple, c'était l'importance des monastères créés par les Celtes. Et nous retrouvons ici, sur la lancée des Celtes, en fin de compte, l'importance des monastères pour l'évangélisation ainsi des populations de l'Europe du Nord. Mais, à côté des monastères, Willy Brod va insister sur une autre institution qui naît à cette époque-là, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire l'église paroissiale. Partout, dans chaque village, Willy Brod essaie d'instaurer une paroisse. Donc, c'est l'époque où naissent les paroisses rurales. Et la paroisse et le monastère sont les deux institutions essentielles grâce auxquelles l'évangélisation des Frisons va être un plein succès. À côté de ces institutions purement spirituelles, Willy Brod crée aussi des institutions à caractère social, hospices, hôpitaux, léproseries, orphelinats, etc., etc. C'est ainsi que, au bout d'un certain temps, il y a une église vivante qui est née dans ce pays qui était autrefois fermé à l'évangile. Entre-temps, il ne faut pas oublier, comme nous disions, qu'il y a eu dans l'église d'Angleterre, depuis l'époque des Celtes, des changements profonds. L'église d'Angleterre est rattachée très étroitement au siège romain. Et bien que Willy Brod, au départ, ait été converti justement dans la mouvance des Celtes, il est très romain. Et son souci, c'est de relier cette jeune église frisonne, du siège de Rome. Et c'est ainsi que, peu de temps après, il se rend à Rome, où il est sacré évêque des Frisons par le pape. Willy Brod est un homme infatigable, et en 690, alors, il commence une nouvelle carrière d'évangélisation, cette fois-ci en direction des pays rhénans. Vraiment, l'aventure est risquée, parce que les populations de ces pays ne sont pas tout à fait favorables. Mais, sur l'instigation du pape, Willy Brod a obtenu l'appui du roi des Francs, Pépin le Bref, qui lui donne non seulement l'autorisation d'évangéliser les populations rhénanes, mais qui lui accorde aussi une protection militaire. Et les ambitions de Pépin sont évidemment de s'emparer de cette région. Et ce faisant, Willy Brod n'est que le promoteur d'une conquête nettement moins pacifique qui interviendra quelques années plus tard. En 695, Willy Brod retourne en Hollande où il va exercer tout simplement son ministère d'évêque d'Utrecht jusqu'à sa mort, qui interviendra en 739. Il aura eu un ministère de 44 ans. Peu de temps avant sa mort, à Utrecht, il a un nouvel objectif. Plan missionnaire, c'était quand même des gens qui avaient une vision missionnaire très importante. La mission sur le Rhin ne sera pas un grand succès. Finalement, le seul succès important de l'activité missionnaire de Willy Brod sera l'évangélisation de la Hollande. Le manque de succès sur le Rhin, qui est quand même relatif, il y a quand même un certain nombre de populations qui se convertissent, mais vient de ce qu'il y a trop d'interférences du pouvoir politique. Et finalement, on se rend compte que l'interférence du pouvoir politique nuit, en fin de compte, à l'évangélisation véritable. Mais avant sa mort, bien qu'étant âgé, Willy Brog a un autre objectif, c'est le Danemark. Le Danemark, où règnent des tribus très très turbulentes, c'est, n'oublions pas, c'est quand même l'époque des Vikings, qui commence en tout cas. En tout cas, de là sortiront les Vikings dans quelques années plus tard. Et là, le missionnaire a pensé qu'il y avait un champ nouveau qui s'ouvrait devant lui. Lui-même se sent trop âgé pour entreprendre cette tâche, mais il pense à cette évangélisation du Danemark et il voudrait former des missionnaires pour les envoyer dans ce champ nouveau. Ayant fait l'expérience que les meilleurs missionnaires sont ceux qui viennent du pays lui-même, Willy Brog pense que la meilleure chose serait d'amener des Danois à se former dans une vision missionnaire pour aller évangéliser leur peuple. Il se rend lui-même au Danemark et il revient de son voyage avec une trentaine de jeunes Danois qu'il va former dans une école qu'il a créée ainsi à Utrecht. À partir de là, il les envoie. Mais était-il trop âgé? Les obstacles étaient-ils trop grands? Toujours est-il que l'évangélisation du Danemark à cette période-là va se solder par un échec total. Et quelques années plus tard, Willy Brog meurt. Et dans ce contexte-là, le siècle s'achève. On pourrait dire, dans une église, en fait, qui est une église en ruine. Une église qui, finalement, on peut se demander même quelle est sa pérennité. Car, mis à part, justement, des réveils comme celui de Hollande, un peu partout, l'église est en retrait et en recul. Et c'est ainsi qu'on aborde l'église du 8e siècle, et c'est un nouveau chapitre que nous commençons maintenant, l'église au 8e siècle. L'église au 8e siècle va être marquée par deux tendances majeures. La première, c'est la poursuite de l'évangélisation commencée au siècle précédent, et puis deuxièmement, la renaissance carolingienne. Après cette période de décadence et d'anarchie qui marque la fin de l'époque mérovingienne, il va y avoir une renaissance spirituelle grâce à l'impulsion en particulier de Charlemagne. Charlemagne, un homme qui est un homme extrêmement discutable et discuté, mais auquel on ne peut pas nier, duquel on ne peut pas nier qu'il avait une certaine foi, certainement très frustre, une foi très peu ludique, mais une foi certaine, et que c'était un homme qui était zélé pour cette foi. Pour lui, la foi était un élément, comme il était aussi d'ascendance germanique, c'était un élément qui entrait dans un tout beaucoup plus vaste, comprenait à la fois une culture, une civilisation et un empire. Mais il n'en demeure pas moins vrai que Charlemagne se disait et se voulait chrétien, et qu'il avait du zèle, en fin de compte, un certain zèle, ou une certaine forme de zèle pour l'évangélisation. En tout cas, cette évangélisation qui a été lancée à partir de l'Angleterre, sous l'impulsion de Willy Brog, comme nous l'avons vu tout à l'heure, se poursuit au siècle suivant, parce qu'évidemment, d'un siècle à l'autre, il n'y a pas de rupture brutale, c'est pour la commodité de l'étude que nous divisons comme cela l'histoire de l'Église en tranches de saucisson, mais bien entendu, dans la réalité, c'est pas comme ça tout à fait que ça se passait. Et à côté de Willy Brog va surgir un grand apôtre de cette période-là aussi, qui lui aussi est d'origine britannique, c'est Boniface. Boniface qui va poursuivre l'œuvre de Willy Brog, dont il est le disciple, et qui va devenir, lui, l'apôtre des Germains. Boniface est un moine anglais qui a été ordonné à l'âge de 30 ans. Peu de temps après son ordination, dans son monastère, sous l'impulsion de ce mouvement missionnaire qui a atteint Willy Brog quelques années auparavant, lui-même, sans l'appel de Dieu, pour aller répandre l'Évangile dans le nord de l'Europe, Et c'est ainsi qu'il rejoint justement Willy Brod en, dans le pays des Frisons pour se former et pour le seconder. Mais que s'est-il passé au juste? Toujours est-il que le roi des Frisons le déclare au bout de quelques années persona non grata et lui interdit d'évangéliser son peuple. Jeune prédicateur, Boniface a-t-il été maladroit? A-t-il froissé des susceptibilités? Toujours est-il qu'au bout de quelques années, il est obligé de retourner dans son monastère, où d'ailleurs il va devenir père abbé. Mais la vision missionnaire, pour autant, ne l'a pas quitté. Et il ronge son frein dans son monastère, si bien qu'au bout de quelques années, il va se rendre à Rome et il obtient du pape la mission d'évangéliser les Germains. On voit ici combien nous sommes loin des moines celtiques qui ne reconnaissaient pas d'autre autorité en dehors justement de celle du monastère. Là, les missionnaires anglais, maintenant, même avant d'ouvrir un nouveau champ missionnaire, éprouvent le besoin de recevoir l'autorisation du pape pour ouvrir ce nouveau champ missionnaire. Muni de cette autorisation, Boniface se rend dans la région de Thuringe, où il commence un travail d'évangélisation qui est couronné d'un certain succès. Quelques années après, le roi des Frisons meurt et Boniface en profite, ce roi qui l'avait déclaré persona non grata, Boniface en profite pour retourner auprès de Willy Brod au siège apostolique d'Utrecht. Quelques années après, Willy Brod meurt et le pape propose à Boniface de devenir le successeur de Willy Brod comme archevêque d'Utrecht. Mais Boniface n'est pas intéressé par un titre comme cela. Ce qui l'intéresse, lui, c'est l'évangélisation des Germains. Et il décline l'offre du pape. Il quitte Utrecht et entreprend d'évangéliser maintenant un nouveau champ missionnaire, proche de celui qu'il avait déjà évangélisé, la région de Hesse. Et là se situe un épisode qui montre quelle méthode d'évangélisation il fallait employer à cette époque-là. Dans une ville de cette région, était arrivé dans un endroit où il y avait un chêne énorme, vénérable, n'est-ce pas, qui était consacré au dieu païen Thor. Et là, Boniface, a compris qu'il fallait qu'il manifeste que le dieu des chrétiens était plus puissant que Thor. Thor, qui était le dieu de la guerre, le dieu du sang, le dieu de la violence, qui était particulièrement révéré par les Germains. Et là, Boniface, qui était en pleine force de l'âge, s'est fait remettre une hache et il s'est mis en devoir d'abattre ce chêne. À la grande stupéfaction, n'est-ce pas, des Germains qui ont d'abord tenté de l'empêcher, de commettre ce sacrilège épouvantable. Et puis évidemment, Boniface avait autour de lui une escorte musclée qui a découragé les Germains d'aller plus loin. Et alors les Germains sont dit, bon, il y a tout ça qu'à laisser faire, Thor va le foudroyer sur place. Et soudain, n'est-ce pas, le chêne est tombé. Et Boniface, bien sûr, est resté bien vivant. Mais en tout cas, il avait fait la preuve que le dieu des chrétiens était plus grand que le dieu Thor, qui n'avait pas su venger le sacrilège qui avait été ainsi commis à son endroit. Et ça a été le début, justement, de son œuvre d'évangélisation dans la région de pays essent, et donc un certain nombre de gens ont commencé à se convertir. Néanmoins, Boniface s'est très vite rendu compte que la conversion de ces gens-là était beaucoup plus superficielle que n'était celle des Frisons du temps du ministère de Willy Brod. Et qu'il y avait des éléments des vieux cultes païens qui restaient mélangé justement dans la foi de ces nouveaux convertis. Alors, il a dû entreprendre un travail aussi d'enseignement pour essayer d'amener les Germains à une foi beaucoup plus saine. Toujours est-il que quelques années plus tard, on le retrouve en Bavière, évangélisant aussi ces régions-là, qu'il organise, dans laquelle il crée des diocèses, et il demande au pape de nommer des évêques de façon à pouvoir encadrer les nouveaux convertis. 4 évêchés sont créés en Bavière, à la demande de Boniface, et lui-même, en 732, est nommé par le pape archevêque de Mainz. En 742, 10 ans plus tard, il convoque lui-même un concile de tous les chrétiens allemands, en quelque sorte. C'est la première manifestation d'unité, si j'ose dire, non seulement des chrétiens des pays d'Outre-Rhin, mais également de la nation allemande en tant que telle. C'est en quelque sorte le christianisme qui va unifier la nation allemande et qui va lui poser les jalons, justement, à la construction du Saint-Empire romain germanique, qui naîtra avec Charlemagne un siècle plus tard, comme, demi-siècle plus tard, en fait, comme nous l'avons vu. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est de noter aussi qu'à l'image de Willy Brod, Boniface reste en relation étroite avec Rome, avec le pape. Et il tient à ce que ce soit le pape lui-même qui nomme les nouveaux évêques, auxquels il fait jurer un serment de fidélité. Il croit qu'il est indispensable que le christianisme soit centré autour de Rome, et dans la perspective de Boniface, ça s'explique un peu, parce que les tribus germaniques sont très indépendantes, très indisciplinées, et en quelque sorte, le christianisme naissant risque d'éclater en des particularismes locaux mêlés avec des éléments de paganisme, n'est-ce pas, mal réfrénés, tant et si bien que Boniface estime que l'influence romaine peut éventuellement contrebalancer ces tendances-là. Bien sûr, il y aura la contrepartie de l'affaire avec la prise au pouvoir de Rome, justement, sur tous ces chrétiens-là. Toujours est-il que, à partir du moment où il est nommé évêque de Mainz, Boniface arrête ses activités d'évangélisation proprement dites pour se consacrer à une autre tâche qu'il considère comme beaucoup plus urgente, qui consiste à épurer la foi et les mœurs de ses ouailles, qui en ont drôlement besoin. Et il va donc entreprendre une réforme sur le plan moral de l'Église qui est déjà existante. Et parallèlement, il ne renonce pas à ses projets d'évangélisation pour autant, et nous le retrouvons en 755, à nouveau en Frisie, où il tente d'évangéliser encore des populations qui ne l'ont pas été. Et c'est alors qu'il effectuait une cérémonie de baptême au bord d'une rivière, cette même année 755, donc il avait environ 80 ans, sinon plus, hein, qu'une bande de païens, hein, sort de la forêt voisine et le massacre, ainsi que les nouveaux convertis qui allaient être baptisés. Boniface va donc mourir, martyr, à un âge avancé, en évangélisant les païens. En fait, Boniface va, pendant son ministère, se heurter aussi à un certain nombre d'oppositions. Et la principale de ces oppositions, c'est l'Église des Sept. N'oublions pas que Colomban avait commencé déjà à évangéliser ces régions-là bien avant justement Willy Brod et Boniface. Et les Sept, sous l'influence de Colomban, les Celtes, sous l'influence de Colomban, avaient instauré des églises bâties sur le modèle des églises celtes, c'est-à-dire groupées autour d'un monastère qui était l'autorité suprême. Et par rapport à ça, c'était des églises qui étaient tout à fait autonomes par rapport à Rome. Or, justement, le conflit qui va naître entre l'évangélisation des Celtes et puis la nouvelle évangélisation de Boniface va porter justement sur la place de Rome. Les Celtes qui n'ont pas été repris en main comme ont été les Celtes d'Irlande et les Celtes d'Angleterre, d'Écosse, n'est-ce pas, restent farouchement attachés à leur autonomie. Et Boniface va donc entrer en conflit ouvert avec eux. Petit à petit, parce qu'il a l'appui de Rome, et aussi parce qu'il a l'appui des pouvoirs politiques, notamment du roi des Francs, Boniface va réussir à réduire l'influence des Celtes. Et au bout de quelques dizaines d'années, va se produire ce qui s'était produit un siècle plus tôt en Irlande, en Écosse et en Angleterre, à savoir que les églises celtes, créées justement dans l'Outre-Rhin, vont rentrer dans le rang et se ranger, elles à leur tour, sous la bannière de Rome. Boniface a une autre ambition, c'est de réformer non seulement les mœurs de ses ouailles, mais également de réformer l'église des Francs. Et là, eh bien, les choses ne vont pas aller tout seules. Pour cela, il faut détruire justement tous les particularismes. D'où justement l'option romaine que prend Boniface de plus en plus. Il va réutiliser finalement ce qui a été la politique romaine au siècle précédent que nous avons envisagé, à savoir l'institution d'une liturgie, d'un rituel, d'un calendrier unique dans tous les secteurs de l'Église. Le latin, il utilise également le latin dans l'évangélisation, enfin du moins dans les cérémonies religieuses qui ont lieu dans les régions nouvellement converties. L'ordre liturgique est imposé en latin, évidemment, qui n'a aucun passé latin. Encore, bon, en Italie, même en France, ça pouvait se comprendre. Les clercs encore comprenaient le latin, mais là, vraiment, le latin, c'est une langue totalement étrangère en Allemagne, ça fait rien. Et c'est ainsi que la voie est pavée pour la constitution du Saint-Empire romain germanique. Dans le même temps, le 8e siècle est un siècle où la papauté continue son ascension. Et la papauté continue son ascension grâce aux relations privilégiées qui naissent entre le pape et Pépin le Bref entre les années 752 et 772. Pépin le Bref, au départ, n'est pas roi. C'est ce qu'on appelle le maire du palais. Mais son ambition, bien sûr, c'est de devenir le roi des Francs. Pour cela, il a besoin de l'appui de l'Église. Et il sollicite l'appui du pape pour lui permettre de satisfaire ses ambitions, éliminer les rois mérovingiens et s'installer à leur place. Or, il se trouve que les papes voient cette offre d'un œil tout à fait favorable parce qu'eux aussi sont en problème. Ils sont en problème en particulier avec les Lombards qui continuent à ambitionner de dominer sur Rome. Et en fait, il y a à cette période-là une guerre entre les Lombards et le pape. Le pape à cette époque-là se nomme Étienne II. Et c'est ainsi que le pape accepte de reconnaître Pépin le Bref comme roi des Francs et successeur de Clovis, à la condition que ce dernier vienne le délivrer des Lombards. Pépin le Bref part donc en Italie, met le siège devant Ravenne et la fortune des armes lui est favorable, il parvient à vaincre les Lombards. Le pape le reconnaît donc comme roi des Francs, et en reconnaissance pour cette nomination, Pépin le Bref, qui n'a que faire de la région de Ravenne, en fait cadeau au pape. Ce qui contribue à agrandir considérablement les états du pape. Il appelle cela le patrimoine de Saint-Pierre. Et c'est ainsi que vont être désignés dans l'histoire, jusqu'à 1870, les états du pape. Les états du pape porteront le nom pompeux de patrimoine de Saint-Pierre. Et on cite même, n'est-ce pas, à cette époque-là, un faux document que Étienne II a fait forger de toutes pièces, qui prouverait que Constantin aurait accordé au pape de son temps la domination sur la ville de Rome. Il s'agit d'asseoir ça sur les documents légaux. Mais ce faisant, le pape devient un des souverains les plus puissants de l'Europe, grâce à ce patrimoine de Saint-Pierre qui lui est ainsi donné. Et la puissance temporelle du pape, qui s'ajoute à sa puissance spirituelle déjà considérable, eh bien maintenant va s'en trouver renforcée. Et comme vous le voyez, c'est un jalon de plus vers le césaropapisme qui va caractériser le Saint-Empire romain germanique. Pendant ce temps, que se passe-t-il en Orient? Eh bien, l'Église d'Orient au 8e siècle ne connaît pas du tout cette période de décadence que connaît l'Église en Occident. Mais l'Église d'Orient continue sa progression, sans à-coups, sans anicroche particulière. L'Église d'Orient, on nous dit, est nettement moins missionnaire que l'Église d'Orient, enfin, que l'Église d'Occident. Néanmoins, lorsque nécessité s'en fait sentir, elle est aussi à ses heures missionnaire, et c'est le cas pour la région des Balkans et la région de la mer Noire, où il y a des barbares qui s'agitent. Et le christianisme devient un moyen, justement, pour conquérir pacifiquement des régions qui sont des difficultés, des obstacles. C'est beaucoup plus économique d'envoyer quelques missionnaires que d'entretenir des armées et que d'aller conquérir par le fer et par le feu ces populations-là. Il faut dire que l'Empire d'Orient, à cette époque-là, a fort à faire, vous le savez, sur le plan militaire, avec l'islam qui est à ses portes, qui a failli déjà le submerger. Et l'Empire d'Orient ne peut pas se permettre d'ouvrir un nouveau front sur les Balkans. C'est alors que, pour essayer d'évangéliser les Bulgares et les Serbes, qui peuplent ces régions-là et qui exercent des pressions sur les marches orientales de l'Empire, le Basileus, l'empereur, va dépêcher deux missionnaires qui vont devenir les apôtres des Slaves de ces régions-là, Cyril et Méthode. Et l'évangélisation des Slaves dans cette région va être couronnée de succès et ouvrir la voie à l'évangélisation des Slaves qui sont situés plus au nord et qui deviendront, dans les siècles suivants, deux siècles plus tard, en particulier les fleurons de l'Église d'Orient, l'évangélisation des peuples de Russie. Et pour ce faire, Cyril en particulier va comprendre que on ne peut pas évangéliser d'une façon durable ces populations-là si elles n'ont pas l'Évangile dans leur langue. Et Cyril va entreprendre un travail de traduction de la Bible en slavon, qui est la langue de ces populations-là. Seulement, ce sont des populations qui sont totalement illittérées. Et il faut leur apprendre les rudiments d'écriture et de lecture et carrément créer un alphabet. Et c'est ainsi que Cyril crée l'alphabet qui porte son nom et qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui l'alphabet cyrillique et qui est l'alphabet dans lequel, par exemple, s'écrit le russe. Au départ, le but n'était autre que de permettre aux Slaves de lire la Bible dans leur langue. Le but était essentiellement spirituel et religieux. Et c'est ainsi que la Bible va se trouver traduite en slave. À partir de là, les deux missionnaires vont passer en Tchécoslovaquie, qu'ils vont évangéliser. Seulement, à l'inverse de ce qui se passe dans les Balkans, en fin de compte, les églises qui vont être créées en Tchécoslovaquie vont échapper à l'influence de l'Église d'Orient pour passer dans l'orbite de l'Église d'Occident. En tout cas, les Slaves du Sud, eux, vont rester dans l'Église d'Orient et vont constituer, jusqu'à aujourd'hui, en quelque sorte, la frontière entre les deux sphères d'influence de l'Église, l'Orient et l'Occident. Ce n'est que à partir du grand schisme, c'est pas du XIe siècle, que la frontière va être clairement délimitée entre les deux régions qui sont sous l'influence des deux grands centres de la chrétienté de cette époque. Donc, peu d'activités d'évangélisation, en fin de compte, dans l'Église d'Orient, même si ce qui est fait là n'est pas négligeable, mais il est certain que par rapport à l'activité missionnaire qui est déployée en Occident, c'est nettement moins important. Par contre, les travaux de réflexion théologique vont se poursuivre dans l'Église d'Orient après une période quand même de difficultés qui marquera justement la pénétration islamique. Mais dès le 8e siècle, le travail théologique reprend. Et là, nous allons assister à un épisode très très mouvementé de l'histoire de l'Église d'Orient. La querelle des images, ou si vous le voulez, la querelle iconoclaste. Mais je pense que nous n'entrions pas dans cette querelle ce soir, parce que il est déjà presque l'heure et que ça nous entraînerait trop loin. Je pense qu'on va pouvoir en rester là pour ce soir et pour laisser au menu de la prochaine fois la querelle iconoclaste.